Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, on écoute le monde changer.
Europe 1, il est 8h.
Qu'ils ne fassent pas ce qu'a fait le précédent gouvernement, qu'ils ne viennent pas conduire la moto à notre place, parce que là, dès l'instant qu'il y a un virage, eh bien c'est un accident.
La méthode Castex à l'épreuve des partenaires sociaux, le Premier ministre les reçoit à partir de ce matin, notamment pour parler réforme des retraites et de l'assurance chômage. Une proposition de dernière minute au Ségur de la Santé, le gouvernement propose aux soignants une hausse de salaire d'au moins 180 euros net. Le Conseil scientifique alerte sur une possible reprise du virus dès cet été, si les gestes barrières et la distanciation ne sont pas respectés. Face à la multiplication des cas, un plan de dépistage massif va être lancé en Mayenne.
Il ne faut surtout pas que l'on affole la population, mais on est très très vigilant. Les bars, le bar tabac, la boulangerie, on fait en sorte que le masque soit porté le plus souvent possible dès que l'on se trouve en mouvement dans un lieu fermé.
Malgré l'ouverture des frontières, les touristes se font très rares en Espagne. Nous irons à Barcelone, très touchés par le Covid. Et pour les vacances, c'est chacun chez soi. Les Français restent en France et vont par exemple admirer les champs de lavande sur le plateau de Valensole en Provence.
Tout ça nous a donné du baume au cœur et puis petit à petit, les gens sont arrivés de tous les coins de France et c'est magnifique pour voir la lavande déjà. Elle est tellement belle, c'est énorme.
C'est énorme, votre invité après ce journal, Pierre.
Bruno Le Maire, nouveau membre du gouvernement, ou plutôt du nouveau ministère qu'il occupe désormais, de l'économie, des finances et surtout de la relance. 8h02 sur Europe 1, très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, Hélène Zelani.
Un agenda déjà rempli du matin jusqu'au soir. Jean Castex a décidément du pain sur la planche avec à partir de ce matin une série de réunions avec les partenaires sociaux. Dans les 48 heures qui viennent, le Premier ministre va recevoir l'ensemble des syndicats et organisations patronales pour, dit-il, arrêter une méthode et un calendrier. Olivier Samin.
Officiellement, c'est une prise de contact, mais ça pourrait être bien plus, car Jean Castex est un homme pressé et les dossiers à traiter s'accumulent. Le chef du gouvernement ne veut pas, en tout cas, être pris en défaut sur sa réputation d'homme de dialogue. « Je tends la main aux partenaires sociaux », disait-il dimanche dans le JDD. François Omeril, le président de la CFE-CGC, le prend au mot.
Il a dit « l'État ne peut pas tout ». Je dis « banco », que l'État nous respecte et nous laisse faire pour la partie qui concerne le social et qu'il ne fasse pas ce qu'a fait le précédent gouvernement. Qui ne viennent pas conduire la moto à notre place, parce que là, dès l'instant qu'il y a un virage, eh bien c'est un accident.
Les virages, les nids de poules et les dodanes, il va y en avoir forcément. Avec, tout le monde y pense, le sujet des retraites qu'Emmanuel Macron a remis dans le circuit. Les syndicats, y compris ceux qui avaient accompagné la réforme avant la crise Covid, jugent que ce n'est plus le moment et que l'urgence, c'est l'emploi. Le patronat n'est pas loin de penser la même chose. Qu'à cela ne tienne, dit Jean Castex, il serait irresponsable de refuser de parler des retraites lorsque l'équilibre des comptes et donc la sauvegarde du système actuel se trouve compromise. Dès ce matin, les partenaires sociaux vont pouvoir tester sur ce sujet et sur les autres le savoir-faire du nouvel hôte de Matignon.
Et premier dans le bureau de Jean Castex, le patron de la CFDT, Laurent Berger, c'est dans une demi-heure.
Un ministre sur tous les fronts, rencontre, déplacement, comme le lui a demandé le chef de l'État, Jean-Rémy Baudeau.
Et maintenant, au travail. C'est ce qu'a lancé Emmanuel Macron à son nouveau gouvernement mardi lors du Conseil des ministres. Message reçu par le premier d'entre eux, Jean Castex multiplie les consultations, les déplacements. Il a déjà les mains dans le cambouis, explique une ministre, avant d'ajouter « faire, c'est tout ce qu'il a en tête ». À l'image de son déplacement hier soir au tribunal de Bobigny, à chaque fois, Jean Castex prend la parole, promet des réformes, parfois de l'argent. Et voilà que le nouveau chef du gouvernement relance par exemple le dossier explosif des retraites. Discussion sur le système à points, sur le financement. Une réforme où il promet du dialogue, mais sur laquelle il pourrait se casser les dents. Il veut montrer que le gouvernement est au boulot, décrypte un membre de l'exécutif. Alors même que certains de ses ministres n'ont pas encore leur cabinet, que ses propres équipes ne sont pas totalement installées à Matignon, Jean Castex ne veut pas perdre de temps, car c'est celui d'Emmanuel Macron qui est compté. Il reste moins de 18 mois au président avant sa campagne pour 2022.
Jean-Rémy Baudeau. Et alors que le Ségur de la Santé touche à sa fin, le gouvernement sort un nouvel atout de son jeu pour tenter de convaincre les syndicats. Une augmentation de salaire d'au moins 180 euros net par mois, la moitié dès septembre, l'autre en mars. Revalorisation qui concernerait tous les personnels hospitaliers du secteur public en dehors des médecins.
Europe 1, il est 8h05.
Il y a du relâchement dans l'air. Le Conseil scientifique s'inquiète de la recrudescence des cas de Covid-19. Alors que les les Français ont tendance à ne plus vraiment respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.
Et l'alerte est lancée en Mayenne. 6 foyers de contamination et une campagne de dépistage massif qui va commencer dès la semaine prochaine sur la base du volontariat. En 2 semaines, le nombre de cas identifiés est passé de 54 à 219 et ça a décidé la préfecture et l'ARS à lancer ce plan pour le département. Les précisions de Justin Morin.
La ville de Laval concentre à elle seule 4 des 6 clusters. L'enquête de l'Agence régionale de santé a ciblé les chaînes de contamination et sans surprise, ce sont des lieux clos. Un EHPAD, une école, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un foyer de jeunes travailleurs et 2 abattoirs. Dans celui de Laval, l'alerte a été donnée en début de semaine dernière après l'identification de cas suspects à l'intérieur du bâtiment. Lors d'une première phase de test, 60 de salariés ont été testés. Près de la moitié sont positifs et sont aujourd'hui en quatorzaine. Avec Laval, les habitants de la commune voisine de l'Huisserie qui fournit de la main d'œuvre à cet abattoir seront dépistés en priorité. Une famille contaminée est d'ailleurs confinée depuis 1 semaine. Le maire Jean-Pierre Thiot appelle ses administrés à la prudence.
Il ne faut surtout pas que l'on affole la population, mais on est très très vigilant. Les bars, le bar tabac, le bar PMU, la boulangerie, on fait en sorte que le masque soit porté le plus souvent possible dès que l'on se trouve en mouvement dans un lieu fermé. C'est vraiment très important de respecter ces règles.
En Mayenne, le taux de passage aux urgences pour suspicion de Covid stationnait en dessous de 1. Aujourd'hui, il est passé à 3,6%. 2 nouveaux cas ont même été placés en réanimation.
Une grande banderole ce matin sur la grue qui surplombe Notre-Dame de Paris. Elle a été installée par des militants de Greenpeace. On peut y lire ces mots, climat aux actes. L'ONG s'adresse à Emmanuel Macron, dont elle dénonce l'inaction climatique. À propos de Notre-Dame, c'est aujourd'hui que les experts vont rendre leur avis sur la restauration de la cathédrale. La flèche devrait être reconstruite à l'identique.
Et cette question qu'on a envie de vous poser, vous partez où cet été? En général, si vous avez prévu des vacances, eh bien ce sera dans l'Hexagone.
Barcelone est l'une des principales destinations touristiques en Europe, mais malgré l'ouverture des frontières, elle n'attire plus les touristes. Il faut dire que la ville a été particulièrement touchée par l'épidémie de Covid. Henri de la Guérie a tout de même pu rencontrer quelques Français.
On était seuls ce matin sur la Ramblas et à la Plaza Real, ça s'est jamais vu.
Ce n'est pas la première fois qu'Olga visite Barcelone, mais sans touristes ou presque, elle a l'impression de découvrir une autre ville. Cette niçoise, qui a avancé son voyage par crainte d'une deuxième vague à l'automne, apprécie ce calme inédit, même si la capitale catalane est loin d'avoir retrouvé son rythme de croisière.
On a un peu de regrets, quoi. La Sagrada est fermée, certains musées sont fermés.
Jean-Pierre est guide touristique, il est au chômage depuis le mois de mars et aujourd'hui il reçoit son seul et unique groupe du mois de juillet. Il n'y a quasiment personne autour de la Sagrada Familia.
C'est pas désagréable. Parce que le tourisme de masse, c'est insupportable, oppressant. Après, tous ces restaurants fermés, ça signifie qu'énormément de gens sont sans emploi. Donc on peut difficilement se réjouir.
17% seulement des hôtels de la ville ont rouvert leurs portes et il y a 6 fois moins de vols à l'aéroport. Depuis samedi, une petite zone de l'arrière-pays catalan est reconfinée. Pas de quoi inquiéter Sébastien, habitant de La Rochelle, étonné par le respect des gestes barrières.
Oui, c'est plus sérieux. Dès qu'on rentre dans un magasin, on est obligé de porter le masque, on est obligé de se laver les mains. Alors qu'en France, on rentre un peu n'importe comment.
Et c'est justement pour éviter tout imprévu qu'avec sa femme, il a choisi la voiture plutôt que l'avion. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1.
Europe 1. Restez avec nous dans un instant, destination vacances, et c'est l'occasion de redécouvrir notre beau pays. Pourquoi pas photographier un magnifique champ de lavande, et puis surtout, on verra quel livre lire pendant cet été. À tout de suite.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal. Hélène Zélani, Pierre de Villeneuve.
Les vacances, c'est l'occasion ou jamais de redécouvrir notre beau pays. Et pourquoi pas photographier un magnifique champ de lavande provençal.
C'est le moment ou jamais sur le plateau de Valensol, du bleu à perte de vue, encore pour quelques jours seulement. D'habitude, les touristes étrangers se bousculent, notamment les Chinois. Mais là, rien que des Français, de quoi émouvoir les lavandiculteurs. Nathalie Chevance avec les cigales en fond sonore.
Les touristes français sont arrivés avec la floraison de la lavande. Et depuis 15 jours, Cathy Gradian, lavandicultrice, a retrouvé le sourire dans sa petite boutique de souvenirs.
Tout ça nous a donné du baume au cœur. Et puis petit à petit, les gens sont arrivés de tous les coins de France. Et c'est magnifique pour voir la lavande déjà. Elle est tellement belle, c'est énorme.
parce qu'on a eu peur, on a eu très peur. On est tout petit et on n'a droit à rien parce qu'on est commerçant ou agriculteur. Ça a été difficile.
Et dans les champs d'un bleu profond, aucun Asiatique pour se faire photographier. Pas d'anglais, très peu d'italien. Le tourisme local et régional sauve la saison. Laetitia Angelvin, la vendicultrice.
Je tiens à dire que les Français jouent le jeu. Merci de nous soutenir parce qu'on a des clients qui viennent en nous disant « En temps normal, on ne vient pas parce que trop de monde, trop de clientèle. On n'a pas envie d'être dans la foule. » Mais là, cette année, on est là et on voulait voir les champs de lavande, bien évidemment.
C'est le cas de Perrine, une Parisienne. Elle avait prévu de partir en Grèce. Elle démarre ses vacances dans les champs de lavande.
C'est fascinant d'avoir une couleur comme ça, intense, sur des distances incroyables. Nous, on a besoin de se retrouver vraiment en pleine nature.
Et c'est toute une profession qui compte aussi sur l'arrière-saison, avec un chiffre d'affaires d'ores et déjà divisé par deux. Valensole, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et Provence ou pas, si vous êtes en train de faire vos valises, vous vous demandez peut-être quel est le livre, s'il n'y en avait qu'un seul, à lire absolument pendant les vacances.
Nicolas Caro, vous avez la lourde tâche de nous aider à choisir le bon. Ce n'est pas facile tant il y a le choix. Vous nous conseillez donc La soustraction des possibles de Joseph Incardona, roman qui vous a emballé, pas seulement vous d'ailleurs, hein, il est aussi lauréat du prix relais des voyageurs lecteurs.
Oui, le roman se passe en Suisse à la fin des années 80, les années fric, et voici Aldo Bianchi d'abord, 38 ans, prof de tennis et beau gosse. Il aimerait bien être riche lui aussi, comme ses élèves. C'est pour ça d'ailleurs qu'il joue un peu les gigolos de temps en temps avec les quinquas en mal d'aventure, avec Odile Langlois notamment, 49 ans, femme d'un banquier vraiment riche, mais enfin c'est pas ça qui lui fera amasser une fortune, alors il passe à la vitesse supérieure. On lui propose de devenir coursier entre la France et la Suisse, et la marchandise, bien sûr, c'est de l'argent. Au passage, on apprend toutes les techniques de l'époque pour faire passer les liasses en contrebande, y compris l'utilisation du deltaplane, et oui. Bref, sur ce chemin-là, il croise Svetlana, banquière certes, mais issue d'un milieu modeste. C'est une histoire d'amour qui commence, mais aussi une vengeance sociale. Les deux s'allient pour avoir leur part du gâteau. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? C'est la question. C'est brillant, haletant et diablement intelligent. Au détour d'un paragraphe, on lit une citation de Balzac qui résume bien le roman. Derrière chaque richesse se cache un crime.
Ça fait très envie, oui. Nicolas Caro. La soustraction des possibles, et c'est chez Finitude.
Et ça rappelle un autre roman de Monica Sabolo il y a quelques années qui s'appelait Grand Montana, qui parlait justement de ces transferts d'argent dans les années 80.
Belle référence.
Fait un peu douteux entre la France et la Suisse. Merci Nicolas Caro. Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani.
Europe 1. Dans un instant, l'invité politique de la matinale, Pierre de Villeneuve.
Oui, ce matin, je reçois Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Comment cette relance? Comment penser l'après-crise du Covid et relancer le pays économiquement? Les réponses dans un instant.